C'est vrai que c'était super stratégique à l'origine, vraiment, vraiment. C'était vraiment, OK, il faut que je trouve une job un jour. Mais après, oui, mais ce que j'ai fait ensuite, c'est vraiment de créer quelque chose à mon image. C'est pour ça que j'ai commencé à aimer. Mais je dis toujours, si tu me prends puis tu me mets dans un cabinet pour faire le droit fiscal ou le droit des affaires, non. C'est vraiment juste parce que j'ai créé ma bulle et ma façon de faire. Et ça, j'aime ça, sous cette forme.
Vous écoutez L'Ambition au féminin, épisode 62. Mon nom est Tatiana Saint-Louis et j'anime L'Ambition au féminin, un podcast pour toutes les femmes pleines de vision, de talent et de drive qui désirent redéfinir le succès selon leurs termes et leurs conditions. Chaque semaine, j'explore seule ou en présence d'invités les thèmes entourant la réussite professionnelle et personnelle. Mindset, productivité, leadership, branding personnel, c'est le rendez-vous pour réfléchir à la façon dont tu veux vivre ton plein potentiel et laisser ton empreinte dans le monde. Salut les ambitieuses, comment ça va aujourd'hui? Contente de vous retrouver pour un nouvel épisode de l'Ambition au féminin, toujours au rendez-vous, toujours le lundi matin pour vous donner un boost de motivation à entendre soit moi ou d'autres femmes qui vivent, dans le fond, leur rêve d'ambition et qui essayent de développer encore plus loin leur expertise, leur façon de faire. Et j'espère que ça vous inspire à vous aussi à être la meilleure version de vous-même, que ce soit au travail ou dans votre vie en général. Bref, aujourd'hui, nouvelle invitée, j'ai invité sur le podcast Anne-Edma Louis. Je connais Anne-Edma de sa présence sur LinkedIn. Anne-Edma, elle est avocate, elle est fiscaliste aussi. Et même si c'est un sujet qui est très loin de mes expertises et surtout de, disons que je lis pas là-dessus toutes les fins de semaine, mettons, elle a une mission quand même d'aider les entrepreneurs, de vulgariser et elle fait beaucoup de création de contenu qui est notamment la raison pourquoi je la vois tout le temps dans mon feed et je trouve que son contenu est absolument, c'est de l'or, tu sais, c'est vraiment beaucoup, beaucoup de valeur qu'elle propose et j'ai voulu l'inviter parce que Anne-Edma travaille quand même dans des contextes assez traditionnels, on va se le dire, assez conservateurs, le droit, la fiscalité, mais elle a réussi à lui insuffler un caractère moderne, un caractère jeune, un caractère enjoué, et donc de rendre ça beaucoup plus facile et accessible, on va dire comme ça, et notamment à travers la façon dont elle a décidé de servir ses clients. Et c'est de ça que je voulais qu'on parle, elle et moi, dans l'entrevue d'aujourd'hui, soit comment est-ce qu'on peut amener notre personnalité, notre façon de faire, mais aussi nos valeurs et notre vision à des industries qui sont, on va dire, prises bien souvent dans des codes ou dans des façons de faire plutôt strictes. Et comment est-ce qu'on est capable d'innover dans ces contextes-là? Donc, un peu plus sur Anne-Edma Louis. Elle est donc avocate en droit des affaires et fiscaliste au sein du cabinet Amléa Avocat Inc., qu'elle a fondé en 2015. Son objectif, c'est d'être un brin de fraîcheur dans un domaine conservateur et donc de permettre aux entrepreneurs de se lancer en affaires, protéger leurs actifs et maximiser leurs avoirs. Depuis plus de 5 ans, elle contribue à améliorer l'accessibilité aux services juridiques en innovant dans son offre de services et en privilégiant transparence et flexibilité avec ses clients. Le caractère innovateur du cabinet a d'ailleurs été reconnu dans les médias, notamment les journaux, les affaires et l'actualité. Sans prétention et avec un ton léger, Anne-Edma partage aussi son expertise en fiscalité via son blog www.réduiresesimpots.ca et elle donne aussi régulièrement des conférences sur le démarrage d'entreprise et la planification fiscale afin de permettre aux entrepreneurs de pleinement tirer profit de leurs revenus. Fait que si c'est pas une belle mission, ça, de pouvoir mieux protéger ses avoirs et d'aider les entrepreneurs à se lancer grâce à une bonne gestion, dans le fond, de leur charge fiscale ou de leur charge légale, ben je sais pas qu'est-ce qu'il y en est une. On a eu une conversation intelligente, nuancée autour de... ça a été quoi, dans le fond? mettre en place ce nouveau modèle d'affaires-là? Et aussi, c'est quoi comment la création de contenu l'a aidé à aller chercher une nouvelle, une notoriété, mais aussi une nouvelle catégorie ou vague de personnes qui peut-être n'auraient pas été attirées par ce genre de service-là de prime abord. Donc, je ne vous en dis pas plus, je vous laisse avec Anne-Edma et je vous souhaite une belle écoute. Salut Anne-Edma, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation d'être sur l'ambition au féminin. Je suis très heureuse de t'avoir avec moi aujourd'hui.
Merci pour l'invitation, c'est vraiment un plaisir également d'échanger avec toi.
Alors, j'aime toujours commencer peut-être nos entrevues comme ça avec une question qui est pas tant reliée au sujet dont on va parler, mais quand même qui met la table sur un petit peu ta personnalité, qui tu es et tout ça. Puis, celle que j'ai pour toi, c'est quoi ta relation, toi, au mot « ambition »
Bonne question! En fait, j'ai une bonne relation avec le mot, dans le sens que, personnellement, j'aime toujours me dépasser. Donc, j'aime constamment pousser un peu plus loin où est-ce que je peux amener l'entreprise, comment est-ce que je peux me développer en tant que professionnelle. Donc, c'est sûr qu'en fait, ambition, je pense que c'est d'une certaine manière le fait d'être constamment en train d'évoluer en tant qu'individu, puis constamment vouloir s'améliorer, autant personnellement que professionnellement. Donc, c'est un travail en continu, c'est pas une destination fixe, je dirais.
Mm-hmm. Est-ce que tu penses que ça a toujours été, ça a toujours fait partie de toi ou c'est quelque chose que tu as développé?
Je crois que je l'ai développé, mais je crois que que ça se développe aussi quand. Parce qu'exemple, ma vie en tant qu'étudiante universitaire, j'avais aucune idée comment fonctionnait le monde extérieur dans un sens. Tu fais tes études, puis tu espères éventuellement devenir avocate. Mais comment est-ce que ça fonctionne réellement sur le terrain, tu n'en as aucune idée. Puis après, tu arrives sur le terrain, tu vois un peu c'est qui les autres joueurs, puis tu réalises qu'il faut que tu développes ton ambition si tu veux te démarquer. Donc, je pense que tu développes cet élément par rapport au contexte dans lequel tu es, alors que si peut-être j'habitais sur une île, j'aurais pas besoin de développer mon ambition tant que ça.
Ah, c'est super intéressant, j'ai jamais vu comme ça, mais en anglais, il y a le mot « grit », je pense, qui décrit bien ce que tu es en train de dire. Je sais pas comment on le dirait en français, mais effectivement, je pense que le contexte, puis peut-être notre instinct de survie... notre incroyable survie professionnelle nous amène à développer ça. Puis je me reconnais vraiment dans ce que tu dis, monde universitaire versus vraie vie.
Ah ouais, puis après ça, tu me mets en Martinique pendant 3 semaines, puis je me dis, pourquoi est-ce qu'on court partout?
Il y a une autre façon de vivre.
Donc le degré d'ambition peut diminuer selon l'environnement.
Mm-hmm. Puis comment tu as décidé de te lancer dans tout ce qui est avocat, droit des affaires, puis là, ça, c'est vraiment une question peut-être de noob, mais je te la pose quand même, mais, tu sais, avocate en droit des affaires puis fiscaliste, est-ce que c'est opposé? Est-ce que c'est genre vraiment comme, c'est un doit être inclus dans l'autre? Comment ces deux expertises-là, tu sais, dansent ensemble dans un certain sens?
Mm-hmm. OK. Donc, initialement, j'ai été faire mon droit et c'est vraiment juste un baccalauréat, donc c'est général. Après, tu peux choisir des cours plus spécifiques. Donc, pendant mon parcours universitaire, j'ai remarqué mon intérêt pour le droit des affaires. Donc, j'ai pris le plus de cours possible dans ce domaine. Puis, tout le monde a un cours de droit fiscal 1. Et j'ai pris le premier cours, j'ai trouvé que c'était intéressant. Et ensuite, je me suis dit, je vais prendre le deuxième cours. Et au deuxième cours, j'ai vu qu'il y avait moins de gens, c'était moins populaire. Mm-hmm. Et parallèlement à ça, j'avais commencé à regarder un peu sur le marché du travail, ça ressemble à quoi? Est-ce qu'on est beaucoup d'avocats? La réponse est oui, comme énormément. Après, c'est de dire, OK, comment est-ce que tu te distingues sur le marché qui est... Moi, je dirais qu'il est un peu saturé. Donc, comment est-ce que tu te distingues dans un marché avec tellement d'avocats à Montréal? Il faut choisir une bonne spécialité. Donc, finalement, est-ce que le droit des affaires suffit? Potentiellement, non. Mais la fiscalité semble être recherché et plus rare, donc peut-être que je devrais m'y intéresser davantage. Donc après, j'ai pris un autre cours de fiscalité pendant mon programme, et là vraiment, tu vois qu'il restait comme une poignée de personnes. Donc, je me suis dit, OK, c'est intéressant, il y a de moins en moins de personnes, mais sur le marché, c'est quand même recherché. Donc, regardons un peu la maîtrise en fiscalité pour venir allier droit des affaires et fiscalité, parce que finalement, c'est quelque chose qui n'est pas forcément un combo qu'on voit, mais être fiscaliste, ça ne court pas forcément les rues. Donc, si je peux amener cette expertise dans ma pratique, je vais pouvoir me démarquer puis avoir les réflexes pour permettre à mes clients de prendre des meilleures décisions, autant au point de vue affaires que fiscales. Donc, c'est comme ça que j'ai mis les deux ensemble, parce qu'autrement, exemple, quelque chose de vraiment simple, un client qui va dire « OK, j'aimerais vendre mon entreprise », si tu n'as pas du tout le réflexe fiscal, tu pourrais prendre une décision, rédiger le contrat sans prendre compte que « Ah, est-ce que je peux lui faire bénéficier d'allègements fiscaux, par exemple? » Donc, c'est comme ça que je suis venue marier les deux.
Parce que, tu sais, dans ma tête, moi, je l'associe vraiment plus à tout ce qui est économique et finance. Puis, pourquoi tu penses que les gens, il y a pas beaucoup de gens qui vont jusqu'à ce niveau-là, tu sais, que les gens, ils lâchent un petit peu en cours de route cette voie-là?
Parce que la fiscalité, c'est une loi en soi, puis la loi, elle est plus lourde qu'une Bible.
Ah ouais, OK.
Et à chaque année, tu peux avoir des réformes fiscales. Donc, finalement, c'est constamment en évolution. Comme quelque chose que tu pouvais faire en 2017, c'est plus possible en 2018. Donc, il faut toujours rester on top of your toes, je te dirais. Donc, je pense que ça peut aussi en dissuader certains.
Intéressant. Fait que, tu sais, ce que j'entends, c'est que c'était quand même assez stratégique, ton choix. Est-ce que tu as appris à aimer ça d'amour et de passion?
C'est vrai que c'était super stratégique à l'origine, vraiment, vraiment. Ouais. C'était vraiment, OK, il faut que je trouve une job un jour. Mais après, oui. Mais ce que j'ai fait ensuite, c'est vraiment de créer quelque chose à mon image. C'est pour ça que j'ai commencé à aimer. Mais je dis toujours, si tu me prends puis tu me mets dans un cabinet pour faire le droit fiscal ou le droit des affaires, non. C'est vraiment juste parce que j'ai créé ma bulle et ma façon de faire. Et ça, j'aime ça. Sous cette forme.
Ouais, non, on se rejoint encore sur une autre chose, parce que même chose, de la stratégie de communication, de marketing dans une entreprise, je trouve ça soporifique. J'aime vraiment faire ça. Mais à quel moment t'as réalisé qu'il fallait que tu lances ton cabinet?
Quand tu fais ton droit, quand tu entres à l'université en droit, tout le monde te parle des grands cabinets, puis d'un truc qui s'appelle la course au stage. Et en fait, j'ai été en droit parce que, tu vois, moi je trouve ça difficile de demander aux gens de savoir quoi faire super tôt. Donc j'ai été en droit parce que mes parents, étant des immigrants, avaient déjà une liste prédéfinie d'options pour moi. Donc dans cette liste, ils avaient trouvé que droit semblait comme un métier qui me permettrait d'avoir des bonnes débouchés. Donc je me suis dit, pourquoi pas? De toute façon, tu peux faire du droit, puis tu ne peux pas te tromper. Dans le sens que pour moi, quelqu'un qui fait un bac en droit, ça va toujours être utile. Puis pour moi, c'est correct. Donc, je me suis dit, je vais commencer avec ça. Puis, je pense que je peux me voir avocate, mais on va voir. Il y a une chose entre le choix de le faire pour étudier, puis le faire dans la vraie vie. Donc, j'ai pris cette option. Après ça, j'entre à l'université, je découvre qu'il y a des grands cabinets, qu'il y a des courses au stage. Comme j'apprends tout ça à ce moment, parce que dans ma famille, j'avais pas forcément d'autres personnes qui étaient avocates qui pouvaient me guider un peu par rapport à ça. Donc, deuxième année, troisième année, tu fais des visites de cabinet et tout, il y a des cocktails, puis tu découvres un peu toute cette industrie. Et je réalise en fait que ça me fait pas forcément rêver, dans le sens que il y en a qui vont regarder Suit, puis ils vont se dire, moi je veux travailler dans un cabinet avec mon Suit, puis avec des beaux bureaux, puis c'est ça qui me fait rêver, qui est tout à fait correct. Mais en fait, moi, en allant visiter les cabinets, j'ai réalisé que, et c'est très superficiel, mais je me suis dit, il me semble que ça doit pas être confortable de porter un Suit à longueur de journée, puis être dans un contexte aussi comme... je sais pas comment dire, mais tu sais, un contexte où tout est parfait autour de toi, t'as le bureau en marbre et tout. On dirait que je me voyais pas être moi-même dans ce contexte. Donc, je me suis dit, OK, donc finalement, ce ne sera pas forcément ça la voie que j'aimerais prendre. Mais après, je n'ai pas forcément d'entrepreneur dans ma famille, donc je ne savais pas si j'avais cette fibre en moi non plus. Et finalement, quand j'ai terminé le barreau, après avoir fait le bac, donc tu fais le barreau pendant l'école du barreau pendant 6, 4 mois, après tu fais l'examen, après il faut que tu trouves ton stage du barreau. Donc là, j'ai commencé à chercher un stage et en même temps, j'ai commencé à regarder sur Internet pour voir quels sont les modes de pratique alternatives, comme qu'est-ce que les gens font, est-ce que je peux trouver un modèle quelque part pour m'inspirer. Et finalement, j'ai trouvé cette avocate aux États-Unis qui me ressemblait dans le sens qu'elle était afro-américaine. Puis c'est pas toujours évident de trouver des avocats issus des minorités visibles qui sont visibles sur Internet. Et elle, je l'ai trouvée et elle était à son compte avec les entrepreneurs et très terre à terre, très généreuse du contenu, comme un peu je fais avec mes capsules. Et là, je me suis dit, je pense que j'ai trouvé ce que j'aimerais faire et comment j'aimerais le faire. Et c'est là que ça a été un déclic. Après, j'ai trouvé mon stage dans mon domaine, mais à ce moment, je savais déjà que par la suite, dès que possible, je voulais partir à mon compte.
Wow, c'est super intéressant. Puis je trouve ça cool aussi que... Ben, en fait, c'est pas mal pour ça aussi que je t'ai remarqué parce qu'il y avait vraiment tout ton contenu que tu fais sur LinkedIn, notamment ton blog, puis aussi le fait que tu aies cette volonté d'éducation qui est quand même pas très développé dans des industries un peu plus traditionnelles où, tu sais, le savoir est comme gardé derrière les portes en marbre, comme tu dis. Puis, tu sais, je trouve ça cool que la création de contenu est venue ouvrir cette voie-là pour toi. Fait que là, tu sais, t'étais à l'université, t'as dû faire ton stage, puis finalement, à un moment donné... Tu l'as fait, j'imagine, dans un grand cabinet, petit cabinet, mais là, finalement, t'as fait comme, OK, là, c'est le moment pour moi de voler de mes propres ailes.
Exact. Puis à ce moment, quand quelqu'un sait qu'il aimerait aller à son compte, tu devrais être dans un milieu où tu vas apprendre beaucoup rapidement. Et rien de mieux que travailler pour quelqu'un qui est seul. Parce que quelqu'un qui est seul doit déléguer beaucoup, puis t'as plus de visibilité sur les dossiers versus un grand cabinet. Ça se peut que ce soit tellement structuré qu'en toi puis client, il y a 45 layers, fait que tu ne te rends jamais. Mais moi, en ayant l'opportunité de travailler pour un plus petit cabinet, j'ai rapidement vu beaucoup et appris énormément. Puis, ça m'a permis ensuite de prendre confiance pour me lancer directement parce que quand je parlais avec mes amis qui étaient, exemple, en entreprise ou dans des cabinets, la visibilité qu'ils avaient eue, ils n'avaient pas eu la même chose. Donc, je me suis dit, je préfère tenter ma chance tout de suite, puis on verra après.
Puis au niveau de ton offre de service, quand tu as développé ton modèle d'affaires puis tout ça, est-ce que ça a été plus du essai-erreur au début ou tu avais vraiment identifié des choses que tu voulais absolument, que tu tenais mordicus à faire différemment, puis ça a été comme la base à travers laquelle tout s'est construit?
Je savais sans aucun doute que j'allais devoir proposer une formule tarifaire différente. Dans le sens que les avocats ont mauvaise réputation, notamment parce qu'on a l'impression que ça coûte cher, que c'est toujours une facture surprise, que tu les appelles puis ça coûte tout de suite de l'argent. Donc, c'est un peu la perception que les gens ont. Et moi, voulant travailler avec des entrepreneurs qui se lancent, la dernière chose dont ils ont besoin, c'est d'être dans le doute au niveau de la tarification pour le support juridique auquel ils ont besoin. Donc, ce que j'ai proposé d'emblée, c'est de faire les choses différemment avec des banques d'heures, des forfaits prédéfinis. Donc, vraiment une transparence dans la tarification. Et à l'époque, en 2015/2016, c'était pas encore trop mis de l'avant. Donc, au point que le Barreau du Québec a fait un article, exemple, dans le journal du Barreau pour parler de moi et d'autres collègues de ma génération, exemple, qui se lançaient avec des forfaits parce que, oh wow, des gens qui ne veulent pas facturer à l'heure. Donc, ça, c'est quelque chose que je savais définitivement que j'allais m'en tenir à ça et que c'était déjà assez pour nous démarquer parce que typiquement, l'avocat va dire mon taux horaire, c'est temps, puis on y va. Donc, ça, c'était l'élément vraiment essentiel. Puis après, le reste est serreur, dans le sens que combien devrait coûter ton forfait, je sais pas. Ça, on va tester, on va augmenter au fur et à mesure et voir qu'est-ce qui fonctionne.
Puis tes premiers clients, est-ce que ils sont venus naturellement ou t'es vraiment allé cogner aux portes?
En fait, non, j'ai dû cogner aux portes. J'avais aucune idée comment tu faisais du développement des affaires. Moi, j'ai étudié en droit, puis on t'apprend à lire des documents, mais on ne t'apprend pas à démarcher de la clientèle. Donc, et de nature plus introvertie aussi, au début, quand je me suis dit, OK, je me lance, j'avais fait tout mon site web pendant l'été, j'avais mes cartes d'affaires et tout. J'ai mis à jour mon profil LinkedIn, puis après ça, la journée, j'étais chez mes parents, puis je sortais mes bouquins, puis j'étudiais des potentielles questions qu'on pourrait me demander. Et là, mon conjoint, à l'époque, on habitait tous les deux chez mes parents, puis il rentrait le soir après le travail, puis il me dit... Mais qu'est-ce que t'as fait? Puis je dis, je lisais. Si jamais quelqu'un me pose telle question, puis il me dit, mais il n'y a jamais personne qui va te poser la question. Personne ne sait que tu existes en ce moment en tant que professionnel à ton compte. Il faut que tu sortes comme aux portes. Puis là, j'étais terrifiée. C'était limite. Je me suis retrouvée sur un site de recherche d'emploi de préférence à aller cogner aux portes. Puis finalement, j'ai pris mon courage à deux mains avec son aide. Puis on a commencé par. Identifier le type de personne avec qui je devrais travailler. Dans le sens que si je cible des entrepreneurs, ben alors je devrais peut-être être amie-amie avec des comptables qui, eux, travaillent avec des entrepreneurs. Peut-être que je devrais parler avec des planificateurs financiers ou des conseillers financiers. Et j'étais sur LinkedIn pour ajouter des gens qui étaient de ce profil. Et j'écrivais à chacune de ces personnes pour leur demander s'ils voulaient prendre un café avec moi parce que je me lançais, puis on pourrait peut-être collaborer. Et j'ai fait ça pendant plusieurs mois parce qu'au début, quand t'as pas de clients, ben, t'as plein de temps pour faire des cafés avec plein de monde. Donc, j'ai passé des mois à faire ça. Puis après, le premier client, ça a débouché d'une rencontre comme ça. Où ça a donné que, ah, ben oui, en fait, oui, j'aurais besoin d'aide avec ça. Puis, à ce jour, c'est encore un client. Et ensuite, les gens autour de toi finissent par savoir. Exemple, j'avais un ami entrepreneur qui avait besoin d'aide, donc éventuellement. Mais après, je te dirais que le fait d'avoir pris le temps de bâtir ce réseau, c'est ce qui a vraiment aidé parce qu'après, ça prend une référence pour que ce client aime l'expérience pour éventuellement parler à quelqu'un d'autre. Il faut vraiment créer ce momentum.
C'est magnifique. Ton conjoint de l'époque, il était-tu en marketing? Parce que c'est exactement ce qu'on fait quand on cible.
Ouais, mais en fait, non seulement ça, mais il était tellement bon dans sa job qu'on a fini par se marier en septembre. Fait que maintenant, on voit le fruit de ça, puis ça a vraiment commencé avec ça.
Cool. Puis tu disais tantôt là, qu'il y avait eu un article qui avait été fait sur les modèles d'affaires un peu différents, des choses de même. Est-ce que le milieu a bien réagi à ce que tu faisais? Y a-tu des gens qui ont essayé de te décourager d'aller dans cette voie-là?
J'écoute pas trop le bruit externe, mais c'est sûr que ça vient un peu, exemple, si tu regardes les gens qui sont dans l'industrie, qui ont 50 ans, 60 ans, versus les jeunes qui arrivent, c'est sûr que ça peut faire un clash. Je me rappelle pas forcément de commentaires ou d'avoir ressenti que je dérangeais, mais c'est sûr que le modèle que la génération comme la mienne et les autres qui partent en même temps, parce qu'en même temps, il y a eu quand même 2-3 cabinets en 2015-2016 que j'ai identifiés avec moi qui se sont lancés avec ce modèle, et c'était un clash par rapport à la plus ancienne génération, mais je ne me rappelle pas d'avoir ressenti comme une gêne par rapport à ça. Je pense que, parce qu'il y a eu vraiment plusieurs articles, après exemple dans les affaires, l'actualité ou autre, et sur un site aussi de Droit Inc., peut-être qu'à l'époque, il y a des gens qui demandaient, OK, mais c'est pas applicable à tous votre modèle d'affaires, parce qu'il y a quelqu'un qui va à la cour, exemple, quelqu'un qui doit aller plaider, comment lui il peut le faire? Et c'est sûr que c'est pas possible de le dupliquer pour tout le monde et pour toutes les pratiques. Donc, parfois, les gens avaient des commentaires plus par rapport à, OK, mais votre modèle, ça fonctionne pas pour tout, puis c'est vrai que ça fonctionne pas pour tout. Donc, c'était plus dans ce sens, mais sinon, après, j'ai pas de souvenirs. Après, les gens, tu sais, maintenant, c'est devenu un peu plus commun. Donc, je pense que c'était aussi de forcer un peu ce changement qui était long due.
C'était dans quelle année, à peu près, juste pour qu'on puisse se situer?
Vraiment 2015, fin 2015 et 2016.
OK, cool. Ouais, non, c'est intéressant parce que je parle, ben, elle est venue sur le podcast aussi. Je sais pas si tu la connais, mais Aïcha Tori, puis elle est plus dans tout ce qui est trademark, mais tu sais, autour de l'art, puis
des artistes,
créatives, genre. Puis c'était intéressant de voir comment elle aussi, elle en était arrivée à intégrer aussi la modernité des communications puis du personal branding dans un certain sens aussi, pour développer sa pratique. Puis toi, tu disais que tu étais relativement introvertie quand t'as décidé d'intégrer le contenu dans ta stratégie plus, je vais dire, éducation/prospection. Est-ce que tu as eu des gênes à te mettre de l'avant ou tu étais quand même assez à l'aise vu que c'était du contenu que tu maîtrisais quand même bien?
Ah, c'était tellement inconfortable. Au début, à l'époque, les gens lisaient encore. Hein? Donc, je commençais avec des articles sur LinkedIn, les gens lisaient. Mais la première fois que j'ai publié un article sur LinkedIn, je me suis déconnectée de LinkedIn pour toute la journée. Je me suis dit, soit de un, le contenu va mourir, puis je vais avoir un like. Puis comme, oh mon Dieu, j'ai un like. Mais dans ma tête, c'est comme si t'as un like, tout le monde a vu que t'as un like, mais finalement, si t'as un like, personne n'a vu ton contenu non plus. Mais j'avais comme l'impression que, oh mon Dieu, on va voir que personne interagit avec. Ou quelqu'un va me dire que c'est de la merde ce que j'ai dit, puis je me suis trompée sur quelque chose. Donc, j'étais vraiment comme inconfortable au début par rapport à ça. En 2016 et 2017, c'était quasiment juste de l'écrit. Je pense même peut-être 2018. Et après, les vidéos sont devenues plus populaires. Je pense que parce qu'avant, il n'y avait sur LinkedIn, il n'y avait même pas de vidéos. Fait que quand les vidéos ont commencé à arriver sur LinkedIn, encore mon conjoint, il m'a dit « Ok, je pense que tu devrais maintenant transitionner vers les vidéos. Les gens maintenant interagissent plus avec la vidéo, c'est plus dynamique. Il faudrait que tu commences à en faire. » Et là, on retournait dans l'inconfort. Parce qu'à ce stade-ci, l'écriture, j'étais devenue confortable au point que j'avais contacté le Huffington Post pour leur dire que je voulais écrire pour eux. Puis à l'époque, ils prenaient des contributeurs, donc j'ai pu être contributrice, puis j'avais ma chronique, puis j'écrivais sur le Huffington Post. Donc rendu là, j'étais confortable avec le fait de partager mes connaissances. Mais après, on retourne au début dans le sens que maintenant, c'est OK, mais il faut partager sous forme de vidéo. Donc on retourne dans le oh mon Dieu, il faut que je parle à la caméra puis que je dise ce que j'ai à dire. Et finalement, j'ai publié la vidéo. Encore une fois, tu as cet inconfort. T'espères que les gens vont interagir. T'espères que ça va être bien reçu. T'espères que tu vas dire quelque chose qui fait du sens. Et finalement, je l'ai fait une fois, deux fois. Ça y a eu une bonne réception. Et après, ben, j'ai continué quand j'ai vu que ça avait un bon retour. Mais c'est sûr qu'effectivement, la première fois au début, c'est... Je pense que c'est pas de filmer qui est bizarre parce que je suis toute seule anyways. Mais c'est quand tu le mets, tu espères que ça va avoir un... que les gens vont... Tu sais que ça va lever, j'imagine, ça doit être le terme. Mais après, par rapport à ma personnalité introvertie, comme je fais tout seul dans le confort de chez moi, après, je le mets sur Internet, j'ai pas tant à interagir avec les gens. Donc, je prépare ce modèle pour moi parce que si il fallait que j'aille dans plein d'événements pour faire ami-ami, ça, c'est pas moi. Donc, finalement, sur le web, je suis capable de me créer cette communauté et les gens m'écrivent et me répondent. Puis après, avant, quand on pouvait se promener puis voir plein de gens, ça devenait même drôle, tu sais, les gens qui voyaient les capsules pour dire « Est-ce que t'es la fille qui fait des capsules? » Donc, finalement, ça fait en sorte que des gens peuvent venir vers moi, ce que moi, j'aurais jamais fait parce que même si je reconnais quelqu'un sur LinkedIn dans la vraie vie, je n'irais pas forcément les voir. Donc, ça permet aux gens de venir vers moi. Donc, je peux comme jouer sur cet aspect.
C'est une bonne balance entre les limites que tu poses autour de toi et l'ouverture que tu as.
Exactement.
Puis, vu que tu travailles beaucoup avec des entrepreneurs, tu vois aussi c'est quoi les enjeux qu'ils ont au démarrage, puis comment ils sont encadrés aussi, j'imagine. Est-ce que tu as l'impression que il y a assez de place? Et toi, tu n'as peut-être pas eu de bloquant au niveau du modèle innovant que tu as mis en place, mais est-ce que des fois, tu remarques peut-être que, tu sais, d'un point de vue innovation dans certains domaines, notamment les domaines traditionnels, puis là, je pense à nos amis les notaires ou les comptables, qu'il n'y a pas tant d'encadrement, que ce soit au niveau de l'éducation ou de ce qu'on peut offrir à quelqu'un qui voudrait suivre une voie différente. Je ne sais pas si c'est clair un peu ma question.
C'est sûr que, si j'ai bien compris, est-ce qu'il y a du support ou de l'encadrement pour les gens qui veulent innover dans leur industrie?
Mm-hmm.
Non, il n'y en a pas, vraiment pas.
Ouais.
Dans le sens que finalement, il y a deux volets. Il y a le volet où tu es en démarrage comme tout le monde, que tu veuilles innover ou non. Les enjeux auxquels on fait face sont très similaires. Puis, ce que je trouve, c'est que, étant donné que j'ai eu à démarrer mon activité, finalement, j'ai fait face aux mêmes enjeux qu'un autre entrepreneur, sauf que je comprenais la partie juridique de la chose. Mm. Puis après, si tu veux en plus te différencier dans ton industrie, puis essayer de changer comment les choses sont faites, ben là, t'es pas mal tout seul sur ton île.
Mm-hmm.
Mm.
Mm-hmm. Ouais, puis dans ton cas, quand même, t'avais ton conjoint qui avait cette approche aussi, cette perspective de « tiens, tu devrais essayer ça », puis ça qui t'a peut-être aussi encouragé à sortir de ton comfort zone puis de ta boîte, que t'aurais peut-être pas fait si t'avais été justement genre juste laissé à toi-même.
Pas du tout. En fait, c'est ça qui fait notre force d'une certaine manière. Moi, quand on me dit « ah, j'aime bien ce que tu fais », je leur dis « ben moi, mon secret, c'est Jean-Yves. » C'est comme je fais juste écouter ce qu'on me dit de faire. Puis j'essaie. Mais les autres personnes, tu sais, j'ai beaucoup de jeunes avocats ou de gradués qui me contactent pour me dire comment est-ce que je fais pour commencer. Puis en fait, tu n'as aucune idée comment t'y prendre. Zéro, zéro. C'est vraiment particulier.
Est-ce que tu les mentors, les jeunes avocats ou des choses comme ça? Tu sais, as-tu un volet où tu fais un petit peu du give back de cette façon-là?
Oui, ben dans un sens, et que je vais régulièrement, par exemple, avoir des étudiants qui veulent faire des stages d'observation où ils veulent venir quelques heures par semaine. Donc, quand je peux, exemple, l'été, je vais toujours ouvrir la porte à quelqu'un d'autre qui aimerait essayer. Jusqu'à maintenant, c'est beaucoup des femmes issues de minorités qui veulent au moins voir un peu comment c'est ou avoir une expérience à mettre sur leur CV pour se démarquer également. Puis après, je vais avoir des gens qui vont m'écrire pour un appel, un 30 minutes au téléphone et autres. Donc, oui. Parce que quand je me suis lancée, j'avais même pas... Ben, parce que le truc, c'est qu'il y a plein d'avocats à Montréal, mais il faut aussi qu'ils soient sur Internet. Donc, moi, quand je me suis lancée, j'avais pas quelqu'un à Montréal que je pouvais dire « oh, j'aimerais faire quelque chose qui est similaire à elle. » Tu sais, j'avais pas ça. J'ai dû trouver quelqu'un au fin fond des États-Unis. Donc, quand je peux, je redonne ce que j'ai pas eu.
Ouais, non, c'est... Puis j'imagine que quand tu fais partie aussi d'une minorité visible, tu sais, on dit tout le temps « ah, ben là, ils vont voir ton nom », puis tu sais, le fait de devoir se rendre visible sur Internet aussi, c'est un autre step, j'imagine.
Mm-hmm. Aussi, puis tu te fais remarquer encore plus d'une certaine manière,
hein. Mm-hmm. Ouais, puis il faut assumer cette nouvelle spotlight sur toi-même soudainement, qui peut-être est pas... pas nécessairement. Tu sais, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont se bloquer cet accès-là parce que peur de justement cet inconfort que ça pourrait créer, surtout au début, d'avoir les yeux rivés sur toi.
Mm-hmm, absolument, parce que finalement, en fait, il faut que vraiment tu crées un détachement par rapport à ça, mais c'est sûr que être visible, c'est inconfortable d'une certaine manière. Tu sais, je peux comprendre que la majorité des gens ne le soient pas, parce que être visible, c'est être visible positivement, mais c'est visible à la critique aussi, puis en fait, tu te fais connaître auprès de davantage de personnes, donc c'est sûr que c'est pas... Je peux comprendre, en fait, définitivement. Mais c'est aussi nécessaire, selon moi, en 2021, si tu veux percer comme à la hauteur de tes ambitions. Parce qu'après, tu peux toujours réussir. J'ai une amie avocate, elle n'est pas sur Facebook, puis elle n'est pas sur LinkedIn, puis c'est très correct. Ben, elle est sur LinkedIn, mais elle l'utilise à peine. Hier soir, on se parlait, puis elle essaie de mettre à jour son profil. Fait qu'elle peut aussi très bien faire sa vie, être occupée. Mais quand je pense à la hauteur des objectifs que je veux atteindre, j'ai pas le choix de me mettre sur le front line, puis d'y aller.
Nice. C'est une belle fin pour notre entrevue d'aujourd'hui. Je vais te poser une dernière question, peut-être plus d'ouverture, dans le sens... Si tu avais un conseil à donner à celles qui évoluent dans un contexte plus traditionnel puis qui s'y sentent pas bien, tu sais, comment est-ce que comment approcher leur idée ou peut-être leur intuition qu'il y a quelque chose qui peut changer? Comment s'entourer des bonnes personnes? T'aurais-tu quelque chose à leur dire?
Excuse-moi, juste reformuler la question. Est-ce que c'est quelqu'un qui aimerait se démarquer dans son industrie, mais qui n'est pas sûr comment s'y prendre?
Quelqu'un qui évolue dans un contexte traditionnel, mettons, genre t'es avocat ou t'es notaire ou t'es comptable ou t'sais, peu importe, puis tu réalises que tu te sens pas bien là-dedans. Ou même t'es encore à l'université puis t'es comme « Oh non, my God, ça marchera pas, là. C'est pas ma voix. Ça serait quoi peut-être la première chose que tu leur dirais?
Oui, OK. Ce que je dirais, c'est de sortir « to think outside of the box » dans le sens que on regarde toujours dans notre lignée ce que les autres avocats font. Et là, les autres avocats font rien. Donc, ça doit être comme ça que les choses doivent être. Mais en fait, ce que je dirais, c'est de sortir de ça, aller voir les autres industries. Qu'est-ce que les gens font dans des domaines complètement différents, comme les entreprises technologiques ou les entreprises de... C'est juste autre chose complètement. Qu'est-ce que les autres font pour se démarquer? Comment est-ce qu'ils se font connaître? C'est quoi le milieu de travail? Qu'est-ce qu'il y a à l'extérieur et comment tu peux aller prendre un peu de ce qui se fait ailleurs et l'intégrer dans ton modèle. Moi, ce que je dirais, c'est que finalement, ça a donné que j'ai trouvé quelqu'un de mon industrie qui faisait les choses différemment, mais en étudiant davantage le personnage, je réalise que ses techniques ou sa façon de faire étaient beaucoup plus connues dans d'autres domaines, comme le content creation ou give, que Gary Vaynerchuk dit toujours. Ben ça, ce sont des choses qui existent pour plein d'industries que des gens mettent en application, mais pas dans le domaine juridique. Donc finalement, il faut sortir, aller voir ce que les autres font. Moi, exemple, j'avais lu le livre Give, de... ou je sais pas comment ça s'appelle, Give, mais anyway, c'est sa phrase. J'avais lu son livre. Et dans son livre, il disait comment des gens comme des notaires, des comptables ou autres, comment est-ce que vous pourriez vous démarquer? C'est comme, donne tellement de contenu que tu vas être la personne clé dans ton industrie. Et ça, c'est pas un réflexe que notre industrie aura. Donc, il faut vraiment sortir, aller voir ce qui se fait ailleurs et l'amener dans ton domaine. Et également, la deuxième et dernière chose que je dirais par rapport à ça, c'est que s'il y a un inconfort ou t'es pas sûr que t'es dans la bonne industrie par rapport à ce que tu aimerais accomplir. Je pense que le problème, c'est pas l'industrie. Je pense que c'est correct de prendre la route, comme exemple, un emploi traditionnel comme avocat. Mais après, c'est d'identifier tes forces et tes faiblesses et de créer ton emploi autour de ça, finalement. Comme il y a des choses que j'aime pas faire, mais après, OK, je vais aller chercher des gens dans mon équipe qui, eux, peuvent le faire. Et de cette manière, tu finis par créer ton emploi de rêve.
Magique. J'aime beaucoup cette conclusion. Ça correspond à 100% à ma vision des choses. Il y a beaucoup de essais-erreurs dans notre vie professionnelle, mais éventuellement, on trouve une voie, on trouve comment mettre les pièces du puzzle ensemble. Puis je pense que quand on en arrive là, tu sais, il n'y a rien de plus satisfaisant. Anedma, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup pour ta présence. Comment est-ce qu'on peut te suivre, te lire? Est-ce qu'il y a des choses qui s'en viennent, que ce soit au point de vue contenu ou pour ton entreprise?
Bien, merci. Tout d'abord, merci pour l'échange. C'était vraiment intéressant. Ça me ramène à mes premiers jours. pour me retrouver et voir qu'est-ce qui s'en vient pour moi, sur mon site amelialegal.com, j'ai en ce moment un kit pour entrepreneurs qui est disponible. Donc, en arrivant sur la page directement, ça va être écrit « kit pour entrepreneurs ». Et avec ce kit, on a accès à tout le contenu que j'ai créé au courant des dernières années. Et en même temps, ça permet à ceux qui sont inscrits pour le kit d'également recevoir les prochaines invitations à mes webinaires qui auront lieu fort probablement mi-février, fin février. Voilà.
Super, super, super intéressant. Puis on va mettre tous les liens dans les show notes de l'épisode pour ton site et pour ce kit qui va probablement être vraiment utile pour plusieurs entrepreneurs qui écoutent le podcast.
Super, je t'en remercie.
Alors, merci beaucoup pour ta présence. Je te souhaite une super belle journée. Puis, je vais continuer à te lire et à t'écouter en vidéo sur LinkedIn.
Merci, à bientôt.
Salut les ambitieuses. J'aimerais faire de ce podcast une plateforme d'échange et de réflexion autour de ce que ça veut dire être une femme et avoir du succès aujourd'hui. Si tu connais une femme dont le parcours inspirant aurait intérêt à être partagé, ou si toi-même pourrais nous outiller grâce à ton expertise ou ton expérience, rends-toi sur mtamarque.com/invité pour m'envoyer les détails. Et finalement, profites-en pour t'abonner à ce podcast afin de manquer aucun des épisodes Et si tu es dans un mode généreux, laisse-moi donc un 5 étoiles pour aider d'autres femmes comme toi à découvrir le podcast. À la prochaine!